7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque vendredi, et plus précisément à l'occasion de la presse à l'école, de la semaine de la presse à l'école d'ailleurs, en France. Une question, comment les jeunes s'informent? Plus d'un adolescent de 15 ans sur deux déclare s'intéresser à l'actualité. Au lycée, en classe de terminale, ils sont 68% à s'intéresser à l'actualité. Mais à quels médias accordent-ils leur confiance? Comment les médias traditionnels, radio, télévision, journaux doivent se réinventer pour intéresser les jeunes? Et quant à vous, les voisins, si vous avez moins de 25 ans, est-ce que vous êtes plutôt journaux? Alors quand je dis journaux, ça peut être sur internet ou sur du papier, peu importe, hein. Radio, télévision, réseaux sociaux, à qui faites-vous le plus confiance? Les médias traditionnels doivent-ils se réinventer pour vous plaire? On attend vos points de vue et vos propositions. Vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le même numéro sur WhatsApp, téléphone gratuit, et bien sûr vous postez vos messages écrit. On va discuter de tout cela avec nos invités. Nathalie Mons, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'université de Cergy-Pontoise et surtout vous êtes présidente du Conseil national de l'évaluation du système scolaire, le CNESCO, qui a publié il y a quelques jours une enquête sur l'éducation aux médias et à l'actualité dans le cadre d'une plus vaste étude sur l'éducation à la citoyenneté. Comment les élèves s'informent-ils? Vous nous direz quels sont les résultats de cette étude. Amel Cogard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'unité éducation de France Télévisions. Également avec nous, Lucille Gimbert.
Pas de problème.
Bonjour, bonjour Lucille. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste à la rédaction RFI en espagnol. Voilà. Et en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, comme chaque vendredi. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, pourquoi les enfants ont aussi besoin de s'ennuyer? Voilà, je vous rappelle notre numéro de téléphone. On va pas s'ennuyer. Sur l'éducation aux médias, comment les jeunes s'informent-ils? 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages qui ont été postés sur nos réseaux sociaux. Mohamed poste de Bamako au Mali et il nous dit clairement, moi je trouve qu'on est sous-informé, on est donc obligé d'aller sur les réseaux sociaux dont les sources ne sont pas toujours fiables, mais au moins ça nous permet d'avoir les infos que nous cherchons. Alors, assez paradoxal. Ruffin à Dakar, les médias perdent de plus en plus leur fiabilité auprès des consommateurs d'informations. Devant le pouvoir de l'argent, certains médias se laissent faire et bombardent les internautes avec de fausses informations. Je ne fais plus confiance aux médias nationaux parce que la probabilité qu'ils soient au service d'un camp politique est très élevée. Alors évidemment, le débat a été très chaud au moment de l'élection présidentielle. Arnaud Anjamena, au Tchad, je m'informe en premier à travers la radio. J'ai dans mon téléphone une liste de stations de radio que je peux ouvrir et suivre à tout moment. Je fais également confiance, nous dit Arnaud Anjamena, à la télévision parce qu'elle diffuse des informations rassurantes. Il n'a pas dit fiable, il a dit rassurantes. Et les images qui accompagnent l'information sont pour moi des preuves de la véracité de l'information. Voilà, je cite le message d'Arnaud. Bien sûr, vous pouvez nous téléphoner en direct au 33 1 84 22 71 71. Racontez-nous tout simplement au quotidien ou chaque semaine comment vous vous informez et comment vous croisez les différentes sources d'information pour vous faire votre propre opinion.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Quand les médias se mettent en quatre pour les jeunes, à la Maison de la Radio à Paris, à Radio France, donc pas la même entreprise que nous, France Média Monde, eh bien Radio France avait organisé mardi dernier un speed dating pour draguer, il n'y a pas d'autre mot, des collégiens, des lycéens, 15 minutes d'échange pour que les jeunes puissent découvrir chacun les différents métiers de la Maison de la Radio. C'est un reportage d'Alice Milo.
Vous êtes en première?
Seconde.
Seconde, d'accord, vous êtes d'où?
De Claude Meunier à Paris 13e.
Moi je m'appelle Laurence Perron, je suis journaliste au service politique de France Inter. Je m'occupe du Premier ministre, un petit peu du Président de la République, mais il y a quelqu'un qui est à temps plein sur le Président de la République. Donc mon travail, c'est d'être toujours au courant de ce qu'ils font, de les suivre sur le terrain. Hier soir par exemple, j'étais à l'Élysée jusqu'à assez tard dans la nuit pour le débat que le président de la République a organisé avec les intellectuels. Et en théorie, en fin de semaine, je pars avec le Premier ministre en Guyane, où il va rencontrer un peu les gens dans le cadre du grand débat national.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un politique vous refuse une interview ?
Ah oui, ça arrive très souvent. Si par exemple je demande demain à Emmanuel Macron une interview, il va me dire non. Le président de la République choisit ses interlocuteurs. Même le Premier ministre. Le Premier ministre, je le suis. La plupart du temps, il ne dit rien. Édouard Philippe, c'est quand même le roi pour ça. Toute la journée, on le suit, on le voit passer, il nous fait coucou. Et puis, il y a un moment, il nous dit « Bon, bah, je vais vous faire un micro tendu. » Alors, micro tendu, ça veut dire qu'il est là devant nous et en fait, il parle tout seul. Donc, et là, il dit « Vous avez des questions ?» Donc, vous lui posez au départ une question polie. « Oui, cette journée de débat s'est-elle bien passée avec les gilets jaunes ?» Donc là, il va répondre ce qu'il a envie de répondre. Puis après, on lui pose une question un peu plus politique en lui disant « Mais pardon, ça s'est mal passé quand même, là, sur les Champs-Élysées. Est-ce que vraiment, votre ministre de l'Intérieur, Castaner, est à sa place ?» Et là, il va faire « Au revoir !» Hop, il tourne les talons et il s'en va. Ça, c'est Édouard Philippe. C'est très souvent comme ça, les politiques. Donc oui, il a accepté de répondre à l'interview, mais en fait, il répond pas.
Mais après, enfin, ils sont un petit peu obligés de répondre, parce que si c'est filmé et qu'après, on monte sur, à la télé ou à la radio qu'il est parti et que, entre guillemets, il n'assume pas, les gens ils vont avoir une mauvaise opinion de lui, non ?
Oui, mais nous, on est très polis. Et on fait assez peu ça.
Comment est-ce que vous vous informez ?
Avec les parents, en voiture, sur les trajets, sur le téléphone, Instagram, tout ça, là, les réseaux. À la télé aussi.
Quelle chaîne ?
France 2, France 3, on regarde les infos.
C'est toi qui allume la télé ?
Non, c'est mes parents.
Mais toi, de toi-même, est-ce que tu as le réflexe quand il y a une actualité ? Enfin, comment tu es au courant de l'actualité ?
Avec mon téléphone. On va parler, frère, si tu veux.
Quand t'as un iPhone, tout à gauche, il y a les actualités et ils montrent les infos.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais. C'est-à-dire que c'est Apple qui choisit les actualités,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça.
C'est une application Apple.
Oui.
Tu cliques sur quoi ? C'est-à-dire que c'est quoi le genre d'actualité qui t'intéresse ?
Les gilets jaunes, ça parle de Paris et...
Donc ça nous concerne.
Sur la scolarité, parce qu'il y a beaucoup de changements.
Oui, parce qu'il y a beaucoup
sur le bac, pour la réforme,
oui,
du bac.
Il y a beaucoup de réformes. Et du coup, je crois que ça va tomber sur nous en plus.
Oui.
Ça va tomber sur notre année et ça, c'est embêtant en fait.
Donc là, vous cliquez.
Oui.
Et est-ce que vous regardez quand on vous propose un article ? Est-ce que vous savez qui a écrit l'article ?
Des fois, c'est dit, mais des fois, on ne voit pas très bien.
Des fois, c'est pas clair.
C'est un peu caché, on va dire.
Ouais. Et des fois, quand c'est dit, c'est qui ?
C'est surtout le Parisien, tout ça, les grands, c'est des trucs fiables.
Et c'est quoi une actualité qui vous intéresse pas ou vous allez pas cliquer ?
Tout ce qui est agricole.
Agricole ?
Oui, tout ce qui est agricole, parce qu'ils en remettent toujours trois couches.
Sur les pesticides, ce genre.
Oui, voilà, ça revient toutes les semaines, c'est assez lourd, quoi.
Ça vous intéresse pas ?
Non, ça, à force, on lasse. Enfin, moi, je pense qu'ils devraient plutôt parler de façon à ce que les jeunes aussi comprennent. Par exemple, des fois, moi, je comprends pas ce qu'ils disent.
J'ai pris du temps à comprendre les gilets jaunes. Hein. Moi, j'ai pris du temps.
Parce qu'à chaque fois, du coup, c'est mes parents qui m'expliquent vraiment ce que c'est et tout. Pourquoi ils font ça ? Parce que dans la télé, ils généralisent. Ils rentrent pas vraiment dans les détails.
C'est ça.
Du coup, on se dit, ça sert à rien et ça nous donne pas envie de regarder.
Ils sont cash, hein, Nathalie Mons.
Oui, ils sont cash et le Conseil national a mené une enquête. On retrouve bien des éléments dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ces jeunes, finalement, on a l'impression qu'ils sont juste sur un smartphone, mais ils sont très perspicaces et des gros utilisateurs d'informations. Nous, on voit bien qu'il y a 2/3 des jeunes qui utilisent plusieurs médias. Et là, c'est revenu, l'entourage, ouais, la télé, la radio.
Avec une confusion quand même. Je m'informe par mon téléphone, c'est un objet. C'est pas une source d'information, le téléphone, Armal Kogar.
Effectivement, oui, bien sûr, le support. Après, il cite quand même des chaînes de télé. Je note quand même France 2, France 3, des sujets qu'ils ont envie de traiter plus que d'autres. Ils savent très bien, je pense, ils savent ce qu'ils veulent faire.
Mais les questions des élèves sont quand même assez désarmantes quand ils demandent à la journaliste Laurence Perron de France Inter pourquoi vous ne vous montrez pas quand le Premier ministre refuse de répondre, pourquoi vous ne le montrez pas à la télévision ou à la radio. Qu'il a refusé de répondre aux questions. Réponse de la journaliste, parce qu'on est bien élevé. Ça laisse penser à une forme de connivence entre journalistes et politiques.
Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement quand on fait ces rencontres. Le speed dating des métiers de l'audiovisuel dont vous parlez est intéressant pour ça. C'est Radio France qui organise, France Télévisions également partenaire. C'est montrer les coulisses et montrer les métiers. Et échanger avec eux, c'est vraiment... échanger avec les élèves, c'est primordial pour répondre à cette défiance. C'est une question qui revient. Après, c'est le choix éditorial du journaliste de montrer ou pas. C'est ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi. C'est-à-dire que le journaliste est là pour montrer une vérité. Mmh. Et
mais vous avez souvent ce type de questions, des jeunes, dans ce genre de rencontres?
Oui, absolument. Oui, bien sûr.
La question de la connivence, enfin la relation entre confiance ou connivence entre les journalistes et politiques.
Oui, c'est une question qui revient régulièrement. D'où l'importance d'aller à la rencontre, d'où l'importance de répondre à toutes leurs questions, expliquer le choix. Souvent, on nous dit oui, mais le journaliste, en fait, il fait ce qu'il veut, il est intouchable. Et la réponse, c'est non, le journaliste n'est pas intouchable. Quand il fait une erreur, il est sanctionné. Il y a le CSA, il y a sa direction, il perd toute crédibilité. Donc, il faut leur expliquer et répéter ce discours-là aussi souvent que nécessaire.
Lucille Gimbert, par rapport à ce que vous avez entendu, est-ce que les lycéens vous disaient quand vous avez travaillé avec eux dans ce lycée d'Île-de-France. Vous avez retrouvé des propos?
Alors j'ai retrouvé cet élément de l'influence des parents dont on parlait un petit peu juste avant hors micro. Nous, on leur a demandé, on a donc fait un programme, un atelier radio de 20 minutes en espagnol sur la caravane des migrants avec 16 élèves de première et terminale. Et juste avant de commencer tout ce travail, on leur a demandé, mais vous, la radio, c'est quoi? Est-ce que vous écoutez la radio? Quelle radio vous écoutez? Et bien alors, principalement, beaucoup n'écoutaient pas la radio. Quelques-uns écoutaient des radios, mais des radios musicales. Ils avaient tout de même identifié qu'il y avait des flashs et que c'était des petits moments d'information. Mais c'était pas, ils n'y allaient pas pour de l'information. Mmh. Et ensuite, il y en avait quelques-uns qui disaient « Ah bah oui, moi j'écoute le matin parce que mes parents écoutent France Inter ou Europe 1, ou etc. Oui. » Et ceux-là étaient un peu plus éveillés à la fabrique de l'info. Et ce qui les a attirés, c'est justement de comprendre comment nous on fabrique. Pourquoi on fait ces choix? Pourquoi on ne met que 15 secondes, 20 secondes, 40 secondes de l'interview alors qu'elle a duré beaucoup plus longtemps? Et là, ils comprennent un peu plus ce qu'ils entendent, en fait. C'est la sensation que j'ai eue.
En tout cas, pas de doute, Nathalie Mons, l'étude du CNESCO, elle montre bien que les élèves sont réellement très intéressés par l'actualité.
Oui, oui, ils sont très intéressés par l'actualité. On voit que, et ça progresse hein, finalement avec l'âge, entre la troisième et la terminale. En terminale, il y a quand même plus de 70% qui nous disent que oui, ils s'intéressent à l'actualité d'une multiplicité de façons. Et on voit qu'ils sont quand même tout à fait perspicaces par rapport à la fiabilité des sources. Hein. Ça rebondit hein, sur les premières interventions de vos éditeurs depuis l'étranger. C'est une vraie question des jeunes. On les a aussi interrogés en termes de démocratie sur la nécessité d'avoir un pluralisme à la fois économique et politique. Et en France, deux tiers des jeunes, soulignent le fait qu'en effet, il faut qu'il y ait une pluralité hein, des médias.
C'est-à-dire qu'un même événement peut être présenté de différentes façons en fonction des positions d'un média. Mais alors l'étude, elle a porté sur 16 000 élèves. Hein, donc on est vraiment sur un très gros échantillon. Comment ils s'informent? Quelle est la hiérarchie des sources d'information pour ces jeunes donc, qui sont des collégiens, des lycéens?
Alors, la première caractéristique, c'est que cette information, très souvent, elle est indirecte. Puisqu'en fait, la première source, c'est l'entourage. Alors l'entourage, ça peut être, on imagine, hein, l'appartement, les parents, le salon, le dîner, les pères, la cour de récréation. Mais ça peut être aussi tout ce qu'on reçoit par les réseaux maintenant, hein, par les WhatsApp, etc. Donc ça arrive tout en haut de la hiérarchie hein, des sources d'information.
Moi, je voyais la télévision.
Et la télé, alors... Étonnement de notre part, mais peut-être qu'on est déjà dans un nouveau monde, mais qui n'existe pas encore tout à fait. En tout cas, la télé reste en effet un média très important, mais qui recule hein, avec l'âge.
Mais parce que là, c'est la télé allumée par les parents
on
dans
peut imaginer,
la salle de séjour des parents.
Voilà, on peut imaginer en effet hein, que ce sont notamment aussi peut-être les sources d'informations continues.
Souvent, et puis après, les conjointes. Ouais. Souvent, on écoute conjointe, en fait, ce qu'on entend aussi.
Parce qu'au moment, au moment du repas, etc., on prépare le dîner, et donc la télé est
C'est certainement un objet qui existe dans le paysage familial.
L'Internet, dans un pays comme la France, hein, juste pour bien qu'on redonne les chiffres pour nos auditeurs à l'étranger, on a 95% des élèves de 12-17 ans qui ont une connexion Internet, donc du Wi-Fi, à domicile. Hors téléphone mobile. Donc, ils ne sont pas obligés d'aller sur une connexion 3G, etc. Donc ça, c'est quand même très important pour la façon dont ils s'informent.
Ah bah ça, c'est fondamental, puisqu'on voit bien que les réseaux sociaux sont aussi très bien placés dans les sources d'information. Et les journaux en ligne, on a quand même là une réponse sur la relation à la fiabilité de l'information. Ces journaux en ligne, donc, qui sont finalement les médias traditionnels et leur écho, leur correspondance en ligne, sont également très bien positionnés et surtout progressent avec l'âge. Donc on peut imaginer qu'entre la troisième, qui est la fin du collège français, et la terminale à la fin du lycée, quand on a 17-18 ans, on commence finalement à percevoir des différences dans ce flux d'informations qui nous arrive d'Internet. Et on va retrouver finalement ces éléments dans la confiance. La confiance, on sait qu'elle est très faible chez les adultes, la confiance dans les médias en France. Elle est beaucoup plus élevée chez les jeunes en général, qu'on a pu interroger. Et cette confiance, ils la mettent clairement, avec beaucoup de perspicacité, dans les médias qui sont en effet les plus fiables. Les médias traditionnels, alors c'est-à-dire la télévision, ces fameux journaux aussi en ligne, la radio aussi arrive à un niveau très élevé.
Et quand vous dites confiance plus élevée, ça veut dire, chez les jeunes, ça veut dire que parce qu'on commence à arriver à des générations qui savent mieux s'informer aussi, diversifier les sources, zapper, aller d'une source à l'autre, d'un média à un autre.
Je crois qu'il y a quand même un travail de l'école, maintenant depuis une vingtaine d'années, sur l'éducation aux médias. Alors, ce n'est pas encore répandu partout, ça n'est que présent dans un collège sur deux, un lycée sur deux. Pour autant,
même si c'est l'éducation civique est au programme
partout, mais je dirais que toute l'éducation à la française pousse réellement à cette posture critique. Alors parfois, on se dit que les Français sont très défiants, etc. Mais parfois, ça sert aussi d'être défiant et d'être à distance de ce qu'on peut recevoir comme information.
Sur la télé, moi j'ai quand même été très étonnée de la suprématie de la télé. Je ne dis pas ça parce qu'on fait de la radio, Armel Kogar, mais parce qu'en même temps, l'audience de la télévision ne cesse de vieillir. 53 ans l'âge moyen, c'était 52 ans il y a 12 mois. À ce rythme-là, vous allez avoir des téléspectateurs de 63 ans dans 10 ans.
La télé reste quand même un support très, pour les 4-14 ans en tout cas, la télé est vraiment primordiale. Elle reste le support numéro 1. Sur l'information, c'est un peu différent. Les tout-petits s'informent plutôt à partir de la presse écrite encore, avec des journaux comme Playback par exemple, comme Un jour une actu ou Mon quotidien. Et la télé, surtout en écoute conjointe, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus on grandit, plus on commence à utiliser d'autres supports, mais la télé, même pour les collégiens et lycéens, reste soit en numéro 1, soit en numéro 2. C'est un support important, on le voit dans la consultation citoyenne de la télévision publique que nous avons menée récemment, l'info est une priorité numéro 1 de notre public. Et il y a eu aussi des études qui des sondages qui donnent l'info de service public, notamment sur la crise des gilets jaunes, comme le numéro un. Donc il y a vraiment une vraie confiance dans les médias, et je pense que la télé continuera à être un support important, parce qu'il y a justement cette confiance qui est installée avec le public et que nous devons continuer à entretenir de façon très forte.
Il y a une différence, parce que là, sur les chiffres, ce sont des moyennes dans votre étude, Nathalie Mons, mais en fonction des milieux sociaux, il y a des différences très notables.
Énormes. C'est vraiment ce qui nous a marqué, c'est-à-dire que l'enquête vraiment met en évidence que des inégalités sociales très importantes s'invitent dans la consultation et la confiance ainsi dans les médias. C'est-à-dire que les jeunes qui sont repérés dans des milieux socialement défavorisés, donc parents ouvriers, employés, inactifs, chômeurs, etc., n'utilisent pas exactement les mêmes médias pour s'informer. Ils utilisent beaucoup plus, par exemple, les réseaux sociaux, et ils placent, je dirais malheureusement, aussi beaucoup plus leur confiance dans ces mêmes réseaux sociaux. Et inversement, ils utilisent moins les médias traditionnels, notamment justement la radio, qui est un peu l'apanage
tout en étant dans la défiance, dans éventuellement la théorie du complot, par exemple.
Il y a peut-être des relations entre tout ça. C'est-à-dire
ça
que
ça peut sembler assez paradoxal.
C'est ça qui est pas. Oui.
Si paradoxal que ça, en ce sens où, comme on utilise davantage des réseaux sociaux pour s'informer qu'on a finalement une moindre distance, une moindre défiance par rapport à ces réseaux, eh ben, on est plus facilement, alors là pour le coup, la proie de toute une série de fake news, clairement.
D'où l'importance de l'éducation aux médias et de le plus jeune âge. Le plus important, c'est de lutter contre cette désinformation dès tout petit et de mettre en place des programmes, notamment accessibles aux petits, avec toute la contextualisation nécessaire pour
Lucie
les enfants.
Lucie Gimbert, vous l'avez remarqué avec les lycéens avec qui vous avez travaillé, que en fonction des milieux, ils avaient davantage tendance à être plus exclusivement tourné vers les réseaux sociaux pour s'informer.
Moi, j'avais aucune connaissance du milieu d'où ils venaient. Je leur ai pas posé la question, donc j'ai pas cet élément-là. Mais ce qui est certain, et c'est ce que je voulais ajouter, c'est que par les réseaux sociaux, ce sont des entrées beaucoup sur l'émotion, en fait. Les publications même des médias et des médias non traditionnels ou de ces médias étrangers qui sont de plus en plus présents aussi en France, c'est des entrées par des images attractives, par des émotions, par des questions, par des choses chocs. Et ça fonctionne avec nous tous. Et ça fonctionne aussi avec les jeunes. Et du coup, ils ont, moi, la sensation que j'ai eue, c'est qu'ils ont conscience que dans ce monde d'infos qui leur arrive, dans leur téléphone ou par les groupes WhatsApp ou par leurs copains sur Twitter, parce que Facebook, en vrai, ils n'y sont pas.
Ouais. En fait, c'est surtout Instagram. Hein, pour
voilà, Instagram, Twitter. Moi, j'ai plusieurs élèves qui sont sur Twitter, Snapchat, etc. Que dans ce flot qui leur arrive, il y a des fake news, il y a des fausses nouvelles. Mais moi, il y a une question qui m'a beaucoup interloquée au début de ce projet qu'on a mené avec eux. C'était, on leur expliquait le système des dépêches, qui est un peu notre matière première. On reçoit les infos faites par les journalistes. Liste de l'AFP, les agences, voilà. Et on m'a demandé, une élève me demande, est-ce qu'il y a des fake news, est-ce qu'il y a des fausses nouvelles dans l'AFP? Et donc, on a répondu, j'ai tâché d'expliquer qu'il pouvait y avoir éventuellement des erreurs, parce que l'erreur est humaine, parce que c'est un travail voilà, qu'il faut qu'il soit vérifié, recoupé, et donc il faut des moyens, etc. Mais que c'était corrigé si ça souvenait, et qu'il n'y avait pas une intention de donner une fausse nouvelle. Ce qui est quand même.
Donc, une capacité quand même à la méfiance et au soupçon très étendue. Non ?
Bah en tout cas, moi j'ai senti qu'il y avait une conscience que oui, on peut m'abreuver de choses fausses. Après, j'ai trouvé que c'était pas si clair sur où quels médias ne vont pas m'en donner et quels médias s'ils peuvent m'en donner.
Alors moi j'ai le sentiment qu'ils vont chercher sur les réseaux sociaux des infos un peu spécifiques, ce que je vois dans l'étude, c'est-à-dire qu'ils cherchent le buzz, l'insolite à 36%, les infos people pour 22% des jeunes et la mode 32%. Donc sur les réseaux sociaux, ils vont chercher un peu des infos sympas, légères. Fun, voilà, légères. Quand ils ont envie de s'informer sur les gilets jaunes, ils vont sur des médias traditionnels. Donc j'ai le sentiment quand même qu'ils arrivent à faire la différence et à aller chercher l'information là où ils sentent qu'ils ont une confiance.
Les jeunes Français, par rapport aux autres Européens, comment se situent-ils dans leur façon de s'informer ?
Alors, les jeunes Français, et bon, partout on a ce panachage de sources d'informations, c'est-à-dire médias traditionnels, entourage, réseaux sociaux, voilà. Donc, c'est un immense super marché de l'information. Et puis, en effet, on tire des fils, voilà, en fonction certainement de l'heure de la journée, du type d'information que l'on veut avoir. Donc, ça, on le retrouve partout. Par contre, ce qui est marquant, c'est en termes de confiance. On a des niveaux de confiance dans les réseaux sociaux qui peuvent être dans tout un ensemble de pays, notamment européens, beaucoup plus élevés qu'en France. Par exemple, en Finlande, en Italie.
Donc vous dites confiance ou crédulité pour les réseaux sociaux?
Là, les questions sont autour de la confiance. Est-ce que vous avez confiance dans tel média? Et en Italie et en Finlande, on a quasiment quand même un jeune sur deux en fin de collège qui fait confiance dans les réseaux sociaux. Donc, on voit bien que les jeunes Français sont particulièrement perspicaces. On retrouve cette perspicacité, je citais aussi le pluralisme de l'information économique et politique. Là encore, les jeunes demandent davantage ce pluralisme. On a une autre question aussi qui est un petit peu effrayante, puisqu'on les interrogeait. Lorsque la nation est menacée, l'État doit pouvoir contrôler l'information que les médias diffusent. Donc malheureusement, on a quand même beaucoup de Français qui nous disent, de jeunes qui nous disent au collège que deux tiers nous disent oui, en effet, il doit y avoir ce contrôle. Mais ce chiffre est encore plus élevé.
Quand la nation est menacée, c'est ça.
Quand la nation est menacée. Mais ce chiffre est beaucoup plus élevé à l'international, puisque nous, on est sur deux tiers des jeunes de troisième, l'équivalent de troisième, qui nous disent qu'en effet, il doit y avoir ce contrôle, quand ça atteint 80-90% à l'étranger dans la même enquête. Donc on a des jeunes, je pense, qui sont quand même Français qui sont assez perspicaces par rapport aux médias. Et c'est simple, c'est certainement la résultante d'une éducation aux médias.
D'une éducation aux médias et d'une, aussi d'une, d'une, d'un travail des médias aussi au sein de l'école depuis quelques années.
Alors ça, c'est fondamental, en ce sens où on a aussi regardé dans l'étude quelles sont les éducations médias qui sont efficaces. Tout n'est pas aussi efficace. Et en effet, hein, quand vous allez dans les classes et quand vous décryptez la fabrique de l'information, c'est un des éléments qui est très efficace et qui est assez peu porté en fait en France par les programmes. La spécificité, quand on regarde les programmes d'éducation aux médias, la spécificité française, c'est qu'elle utilise, enfin, elle met souvent le jeune dans une position de récepteur. Donc, on va essayer de lui permettre de décrypter la fiabilité des sources. Alors qu'à l'étranger, on le met dans une position de producteur d'information. Hein. C'est-à-dire qu'il participe et en créant, en fait, bah, il passe un peu de l'autre côté du miroir et en créant l'information, lui-même comprend comment ça se passe. Et ça, c'est très important.
J'ai le sentiment que ça a quand même beaucoup évolué, notamment depuis les attentats de Charlie Hebdo, où l'éducation aux médias, on a tous bien compris, y compris les médias et les enseignants et l'éducation nationale, qu'il y avait vraiment un travail urgent et indispensable à faire sur l'éducation aux médias, parce qu'il y avait énormément de théories complotistes qui circulaient. On sait qu'un enfant sur cinq croit à la théorie du complot. Donc il y a vraiment ce travail-là. Et effectivement, accompagner les enseignants dans cette éducation aux médias, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Ça veut dire se déplacer dans les établissements scolaires, notamment, ou fabriquer des produits pour la télévision, comme c'est le cas pour France Télévisions, avec des jeunes. On va en discuter. France Médias Monde est mobilisé aussi pour cette semaine de la presse à l'école. On en discute dans quelques instants avec vous, Lucille Gimbert de la rédaction RFI en espagnol, et avec vous, Amel Kogar de France Télévisions. My generation be wildin' like we was born desolate on an island. Whoa. LSD hitting proper, nigga like NZT, you can't stop us. No, dang, move like we monsters, nigga drink Tennessee like a shot. Go, free my niggas that's locked up, police always tryna come knock us. Go. I'm backseat blow my truck, undercover cop creepin' on the low. I got a zip and a hash dash in the gas tank, hope the nigga don't smell my smoke. I take a trip out to the French coast, good pole, good weed, move slow. Have a plate of the hats and I shit that fast. I'ma see that shit when I go home. Call that fresh direct marijuana. Only fuck with that potent product. They mad cause I switch the topics. Like I can't talk about where I'm from. I'm meeting good in my hood. My neighbors see me air to air smiling. I'm always high as a fucking kite. But my mind's pissed, they get violent. East Coast winners, my gang. Keep a real tight circle, nigga, fuck through friends. Been around the globe, got them going in a trance. Pay me for my shows on the road in the van. I'm fucking with the hoes like my dough in the bank. Nigga, aura on froze with the code of sedan. See me dripping fucking gold from my soul, that's the fact. Nigga, stepping to me wrong, better know how to act. Let's go, let's go. Raised up deep in the beast. Had a first-hand seat to the war in these streets. The war in Rely the on gripping the heat. And then multiply by getting them kids. By getting that's them why kids. I'm speaking for peace. Cause niggas be dying over the beef. Over the but beat. Please don't fuck with the gods. You gon' be surprised by what you gon' get. My niggas gon' bang, bang. Preacher gon' sing. Come pull up my nigga and see. My niggas gon' bang, bang. Preacher gon' sing. Come pull up my nigga and see. My niggas gon' bang, bang. Preacher gon' sing. Come pull up my nigga and see. My niggas gon' bang, bang. Preacher gon' sing. Come pull up my nigga and see. C'est Génération Z de Underachievers chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. C'est la semaine de la presse à l'école en France. L'occasion pour nous de nous interroger. Comment s'informent les jeunes? Bien évidemment, on a envie d'avoir vos réponses aussi, où que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Gabriella.
Bonjour Emmanuel.
Gabriella, vous avez 24 ans, alors vous êtes plus âgée que l'étude dont on parlait en France qui porte sur les collégiens et les lycéens. Et on sait qu'au fil des années, on évolue aussi dans sa façon de s'informer, dans sa façon de chercher les sources pour s'informer. Alors vous, comment vous informez-vous, Gabriella, à 24 ans? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes étudiante?
Non, je ne suis plus vraiment étudiante. Je suis entre le boulot et les études, donc c'est vraiment au milieu, quoi.
Ouais, d'accord. Et l'actualité vous intéresse, j'imagine?
Énormément.
Alors, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez?
J'écoute beaucoup de radio. Oui, BBC Afrique, RFI, Média du Maroc. Ouais. Et je lis beaucoup d'articles sur Internet proposés par Google Actualité.
Ouais. Alors, vous écoutez une radio marocaine, pourquoi?
Parce qu'elle est un peu plus africaine et qu'elle est assez sérieuse.
Ah oui, d'accord. Donc vous croisez vraiment pour la radio un média anglais, un média marocain et un média français. Comme ça, vous êtes sûre de, de pouvoir vous faire votre propre opinion.
Oui, là au moins je suis certaine de pouvoir couvrir l'actualité venant de plusieurs coins dans le monde, interprétée aussi de plusieurs façons.
Oui.
Voilà.
Et ensuite, sinon, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez?
Je lis beaucoup de journaux internationaux et un journal national, le journal du pays qui est le Cameroun Tribune.
Oui.
Je lis l'Obs, l'OBS. Mmh. Je lis le World Press et le Jeune Afrique.
Oui. Et vous les lisez sur Internet?
Il y en a que je lis sur Internet, mais je lis beaucoup plus sur papier.
Ah, d'accord. Donc vous achetez le journal?
Oui, j'achète le journal.
Vous n'êtes pas majoritaire hein, dans votre groupe d'amis, j'imagine, à 24 ans.
Pas vraiment, mais on va dire que j'ai quand même un groupe d'amis assez ressemblant à moi-même, quoi.
D'accord. Concernant les journaux, je vais vous lire le message d'un de vos compatriotes, Constantin. Alors lui, il est à Bafoussam, hein, au Cameroun, il n'est pas à Yaoundé. Il nous dit, moi je suis fan d'actualité, comme vous. Je lisais la presse, mais depuis que j'ai constaté que les directeurs de publication n'orientent leurs infos que pour plaire aux politiques du pays, je ne lis plus la presse. Facebook me donne en temps réel 95% de bonnes infos sur l'actualité. Alors il ne dit pas quelles sont les sources d'information de ce qu'il lit sur Facebook. Néanmoins, voilà, il fait allusion aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriella?
Bon, ce que je pense des réseaux, ce que je pense des réseaux sociaux, c'est que, grosso modo, ils donnent de l'information sensationnelle. Parce que le plus important pour les gens, c'est en fait qu'il y a beaucoup de groupes et de pages qui ont besoin de likes. Et ils ont besoin d'une certaine visibilité. Donc, ils vont plus dans la grossièreté de l'information, le sensationnalisme, l'hyperbole. Ils se disent que plus ils vont exagérer sur une information, ou bien plus ils vont tordre une information, plus ils auront de personnes qui doivent les suivre. Malheureusement, les gens sont plus intéressés par ce côté. Comme il y a l'une des personnes sur le plateau, je ne connais pas bien son nom, la dame, qui disait que tout le monde est affecté par ça, par ce phénomène d'émotion. Voilà.
Oui, bah c'est ma collègue Lucille Gimbert hein, de la rédaction en espagnol de RFI. Mais enfin, vous décodez bien, vous avez lu des articles sur le marketing des réseaux sociaux, j'ai l'impression, Gabriella, non?
Non, je n'ai pas lu d'articles dessus, mais c'est vrai que je suis assez critique sur les informations que je reçois parce que je connais le pouvoir de l'information. Donc, je préfère ne pas m'envahir l'esprit avec des informations qui vont me permettre d'avoir de faux jugements.
Ouais. Merci Gabriella, en tout cas, de nous avoir téléphoné. N'hésitez pas, les voisins et les voisines qui nous écoutaient, à nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Lucille Gimbert, France Média Monde est mobilisée aussi. On a parlé de Radio France, de France Télévisions, mais France Média Monde est mobilisée pour cette semaine de la presse à l'école, qui est organisée d'ailleurs par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. La thématique cette année, c'est l'info sans frontières. Et donc vous, en tant que journaliste de RFI, de la rédaction en espagnol, vous avez mené un projet d'émission en espagnol dans un lycée de région parisienne avec 16 lycéens. Il faut bien préciser qu'ils étaient volontaires.
Oui, c'est très important. Ces lycéens. Ils avaient envie de faire ça, on n'est pas allé les chercher. Donc c'est aussi un biais dans le regard, les impressions que j'ai pu avoir d'eux, c'est que ce sont déjà des élèves, des jeunes qui sont proches des médias qui ont une appétence, en tout cas une envie de comprendre.
Ouais.
Et ce qu'on a fait, c'est on a eu trois grands rendez-vous. Ils sont venus ici, ils ont découvert tout ce qu'est France Média Monde, donc c'est-à-dire aussi une télévision, France 24, plein de langues, RFI, une radio, une radio en 13-14 langues. Ils ont pu échanger avec tout un tas de journalistes, des reporters sur le terrain qui revenaient du Honduras, par exemple, puisque la thématique qu'eux ont choisie avec leur prof d'espagnol, c'est la caravane des migrants centra-américains qui vont vers les États-Unis. Donc c'est un sujet lourd, intéressant, enfin, c'est un vrai sujet d'actualité internationale et c'est eux qui l'ont choisi. Nous, on a été assez surpris. On s'attendait à quelque chose peut-être un peu plus proche d'eux ou en tout cas de plus léger. Non, ils ont choisi ça. Et dans tous ces moments qu'on a eu d'échange avec eux, ils avaient une vraie conscience de ce qu'on disait un peu au début, qu'un média peut donner une information depuis un point de vue politique. Et qu'il faut en avoir conscience. Après, on a fait un des exercices. Enfin, ils ont fait différents modules. Certains travaillent.
Ils ont fait des interviews eux-mêmes. Ah oui, oui, hein, ils ont complètement fait des acteurs. Ce sont eux qui ont fabriqué l'émission.
Ils ont fabriqué l'émission.
Ils ont rencontré des experts de ce, voilà, de ce phénomène migratoire.
Exactement. Le deuxième rendez-vous, moi, je suis allée avec dans leur lycée. Et sont venus aussi une avocate du Honduras, une avocate des droits de l'homme qui a été exilée parce que sa vie est menacée. Donc, qui a raconté ce que c'est l'exil politique et qui a expliqué les causes de cette migration. Ça, c'était un moment extrêmement fort parce qu'il y avait eu beaucoup d'émotions et du coup, ils ont aussi eu à décrypter, à gérer ça. Il y a de l'émotion, comment je la traite, comment je suis juste concernant une émotion que je sens et qui est en face. Donc, c'était vraiment le travail du journaliste au quotidien sur des thématiques importantes.
Ils vous ont dit ce qu'ils avaient compris, ce qui les avait frappés?
Alors, on commence à avoir des petits retours parce qu'on leur a posé deux questions sur qu'est-ce qu'ils retiennent de ce projet et comment ils pourraient l'utiliser dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc les premiers, c'est les plus enthousiastes qui ont répondu, évidemment. Et alors il y a une question où on comprend l'envers du décor. J'ai compris ce qu'était une virgule. Des fois, j'entendais des jingles, des bruits au milieu de ce que les gens racontent. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, ah là, j'ai compris qu'il y a un geste, qu'on fait ça, pour respirer, pour comprendre, pour aider à la compréhension.
Mais sur le fond.
Et sur le fond, c'est plus... en tout cas, ce qu'ils ont aimé, c'est être au micro, découvrir, devenir acteur, raconter quelque chose. C'est plus ça qui vient, pour l'instant.
L'implication personnelle et l'aspect quand même assez ludique aussi, pour
exactement.
Vous, de découverte.
Et qui est indispensable, en fait, cette démarche de mettre l'élève dans cette posture de journaliste est hyper importante parce que, justement, il comprend les contraintes, il comprend ce que c'est que des choix éditoriaux. Tout à l'heure, quand on avait la question du jeune qui disait « Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'enlever le passage où le Premier ministre s'en va ?» Bah parce que sur un reportage de 1 minute 45, parfois, c'est compliqué de tout mettre et le choix aussi c'est de prendre quelque chose de bien plus important que ce passage là donc ça les met dans cette posture là ils comprennent comment quelles sont les contraintes du journaliste, c'est faire nous ce qu'on fait aussi beaucoup.
Alors justement, Amel Kogar, le président de la République, quand il a été élu, il a très très vite donné une feuille de route claire aux médias publics. Ils doivent se rapprocher des jeunes. Où est-ce que vous en êtes de cette réflexion-là à France Télévisions? Vous avez mis en place des produits télévisés qui sont d'ailleurs rarement regardés par les jeunes en direct, mais qui sont consultés ensuite sur Internet à la demande, comme on dit. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous fabriquez? Comment et pourquoi?
Alors, y a effectivement des programmes qui sont produits sur toutes les antennes, aussi bien ce qu'on appelle nous les antennes linéaires, c'est-à-dire le direct, avec des programmes pour le grand public, l'éducation aux médias. Enfin, l'information, c'est un axe fondateur du groupe France Télévisions, donc évidemment, c'est un axe qui est stratégique et sur lequel on travaille sur toutes les antennes linéaires, donc dans les JT, France 2, France 3, France Info, une chaîne d'info en continu, avec une évolution aussi des rubriques pour permettre de répondre aussi à des problématiques nouvelles sur les fake news. Quand on met en place dans l'œil du 20h, par exemple, des rubriques qui font une rubrique qui fait du fact-checking, pardon,
mais pas vrai ou fake. Là, c'est pas
là, c'est pour le grand public.
Vers les jeunes, ouais.
Et mais les jeunes regardent aussi dans une écoute conjointe. Et sur le jeune public, la partie qui nous intéresse le plus, on a une politique de production de contenu sur les plateformes numériques, comme France TV Éducation, qui est une plateforme pour les familles qui permet aux élèves et aux enfants de un prolongement des cours et aussi des programmes pour comprendre le monde. L'actualité, décryptage de l'actualité est un axe très important. Donc de la production de contenu, on l'a vu tout à l'heure sur les antennes, sur par exemple le nouveau magazine de Thomas Soto sur France 4 qui s'appelle Escape News, que je vous conseille de regarder tous les week-ends.
C'est très ludique, très, très inspiré des jeux vidéo en fait.
Exactement, ce qui permet de reprendre certains codes auxquels les enfants sont sensibles, donc le jeu, et se mettre dans la posture d'un journaliste pour détricoter, chercher l'info, détecter une fake news.
Et puis il y a aussi la collab de l'info où là vous faites carrément appel à des youtubeurs.
Absolument. Là pareil, l'idée c'était comment faire parler d'éducation, mais comment transmettre des messages importants d'éducation média et les fondamentaux de l'éducation média. On s'est posé la question et on s'est dit on va faire aussi appel à des ambassadeurs qui sont les youtubeurs, parce qu'on sait que YouTube est le moteur de recherche des jeunes. On n'a pas choisi n'importe quel youtubeur, mais des youtubeurs qui partagent nos valeurs, et créer une collab de l'info. Il va y avoir une saison 2 à la rentrée qui permet justement de donner des billes pour que les enfants puissent savoir comment chercher une information, comment recouper des sources, comment comprendre les nouveaux mécanismes de l'information avec la data, avec les lanceurs d'alerte.
Ça va être de plus en plus compliqué en même temps. Hein. Et dans cette complexité-là, comment vous allez réussir à continuer d'exister dans la tête des jeunes en tant que marque? Parce que l'info est morcelée, ils reçoivent une petite vidéo, ils ne savent pas d'où elle sort, de quelle chaîne, de quelle émission, ils connaissent juste le chroniqueur, celui qui parle.
Mais en créant des programmes qui leur parlent et qu'ils vont retenir, la collab de l'info est aujourd'hui qu'on fait avec le Clémy d'ailleurs, c'est une production avec le Clémy, aujourd'hui est très appréciée par les jeunes, ils reconnaissent quand on fait Les Clés des Médias, qui est une série aussi qui permet de 25 numéros qui permettent de comprendre une notion clé d'éducation aux médias, qu'est-ce qu'une source, qu'est-ce qu'une info, déjà définir ça. Aujourd'hui, ce sont des programmes qui sont utiles et qui leur parlent parce qu'ils reprennent certains de leurs codes.
Est-ce que le direct est mort? À part pour l'info chaude bouillante, puisqu'on a des jeunes maintenant, et pas que des jeunes, mais des gens qui vont chercher de l'info à la demande. Qu'est-ce que vous répondriez?
Sur les réseaux sociaux, ils vont voir du direct aussi, puisqu'il y a les lives, il y a plein de gens qui transmettent en live sur Twitter et ils y vont. Oui. Eux-mêmes transmettent, les jeunes transmettent leur vie en live, donc c'est un autre live. Mais...
Exactement, et puis on sait, ils veulent tout de suite l'information, tout de suite, on la retrouver, celle qu'ils veulent. Non, je pense que non seulement il n'est pas mort, mais le métier de journaliste non plus n'est pas mort, parce que plus que jamais, on a besoin de journalistes sur le terrain pour vérifier les informations
et mener l'enquête. Et d'ailleurs, il y a une des émissions de Thomas Soto, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin des journalistes pour être informés? On sent bien quand même que les journalistes aujourd'hui, entre la menace de l'intelligence artificielle et de la méfiance des téléspectateurs, des auditeurs et des citoyens, il y a un besoin absolument de redorer le métier de journaliste.
Il faut absolument, bien sûr, il faut répondre à cette défiance et puis il faut aller à leur rencontre. C'est ce qu'on fait dans le réseau citoyen de journalistes de France Télévisions, où les journalistes vont dans les classes pour accompagner les enseignants. Ça, je pense que ce binôme enseignant-journaliste est aujourd'hui indispensable et on s'engage vraiment à le faire. Faire venir aussi les élèves chez nous pour leur montrer les coulisses de fabrication, pour répondre justement à cette question de oui, mais c'est un huis clos, etc. L'information, la production de l'information, c'est un huis clos. Donc, continuer à aller au contact direct. Et répondre à leurs questions.
Eh ben, y a encore du boulot, Nathalie Mons.
Ah oui, très clairement, mais c'est très positif hein, cet engagement des médias. Je crois que c'est en effet l'avenir. Il y a du temps qui est consacré et il faut que ça se développe. Il y a peut-être une dimension dont on n'a pas du tout parlé de l'éducation média et on voit bien que même si on est sur une radio internationale, on est quand même en France. Ça a été un peu évoqué dans votre projet. C'est quand est-ce que les jeunes peuvent aussi devenir, alors pas acteurs pour comprendre comment produire des médias, mais acteur citoyen.
Et ben ça sera producteur l'objet d'une prochaine émission d'ailleurs. On réabordera cette question, notamment qu'est-ce qu'on apprend autrement que par l'école, et on parlera beaucoup de ce qu'on peut apprendre grâce au numérique. Merci en tout cas à toutes les trois, Nathalie Mons, Amel Cogard de France Télévisions et Lucille Gimbert, merci d'être passée par le studio des 7 milliards. Je vous laisse rejoindre la rédaction de RFI en espagnol. Tout de suite, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, à la retrouver en podcast et puis chez 7 milliards de voisins sur RFI. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Marie-Rose Moreau, on a vu dans des chroniques précédentes à quel point le jeu, le fait de jouer, c'était très important pour faire grandir les enfants et que les parents, qu'ils jouent avec leurs enfants ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, mais c'est important de les laisser jouer, de les regarder jouer. Et dans cette chronique, vous avez envie de nous expliquer pourquoi les enfants ont aussi besoin de s'ennuyer?
Et oui, c'est ça. Effectivement, ils ont besoin de jouer, on l'a vu. Et c'est vraiment un signe fondamental de les laisser jouer. Mais ils ont, et ça c'est peut-être un peu nouveau en fait, on sait aussi qu'ils ont besoin de s'ennuyer les enfants. C'est-à-dire de ne rien faire, d'attendre, d'imaginer, de rêver, de s'ennuyer tout simplement.
Donc du temps perdu pour les adultes. De non. Ma glandouille.
Non, 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 justement, c'est là où il faut voir les choses à hauteur d'enfant. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné pour le rêve, pour le développement, pour le futur, pour imaginer.
Y compris pour la mélancolie, parfois.
Alors, parfois, c'est-à-dire que... Alors, c'est pour un petit peu plus grand, la mélancolie. Les adolescents, par exemple, ils ont besoin de ce sentiment mélancolique. Mais les enfants, ils doivent aussi expérimenter, justement, ce petit éclat, ce qu'on appelle le sentiment que la vie vaut d'être vécue. Pour les enfants, que la vie c'est bon pour soi et qu'on a une place dans cette vie en fait.
Alors autant dire que ça va quand même à contre-courant de pas mal de situations. On prépare un emploi du temps qui est très, très serré pour les enfants en Europe avec plein d'activités en dehors de l'école et dès qu'on peut, on lui fait faire des tâches d'adulte, au contraire dans les pays plus pauvres.
Et oui, c'est ça, pour des raisons bien différentes. Nulle part on a envie que les enfants s'ennuient et c'est rare qu'on laisse les enfants s'ennuyer, se soustraire, soit à l'éducatif, comme vous le disiez, apprendre à tout prix, soit à l'utilitaire, faire des choses pour les adultes, les aider quand la vie est rude et que les enfants aident les adultes à survivre. Mais quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, on a vu combien il fallait permettre aux enfants de jouer, mais il faut aussi leur permettre de rêver et même de s'ennuyer pour qu'ils développent leur capacité d'imagination, leurs utopies. Et alors quelque chose de très précieux que le pédopsychiatre et pédiatre anglais Winnicott a beaucoup a découvert d'une certaine façon, il faut que les enfants s'ennuyer les aident à faire ça, il faut qu'ils trouvent qu'ils développent leur capacité à être seuls.
Donc à observer une mouche pendant des heures, par exemple. C'est ça, s'ennuyer pour un enfant.
Ben oui, c'est être seul, avec ou sans jouet, avec ou sans tablette, avec ou sans livre, avec ou sans agenda, avec ou sans adulte. Et puis, regarder comment la vie se passe, comment les choses, ce que je ressens, ce que je suis. Et en fait, on apprend à être seul. Au début, les enfants peuvent éviter ça, ils peuvent s'ennuyer un petit peu de ça. Puis progressivement, ils apprennent à aimer cet ennui et ils ne s'ennuient plus. Au contraire, ils vont réfléchir, ils vont développer ces capacités à être eux-mêmes, à penser, à prendre plaisir, à penser par eux-mêmes, à exercer ces capacités. C'est quand même extrêmement important de s'ennuyer quand on est enfant.
Reste à savoir, est-ce que ce sont des bons souvenirs? Moi, j'ai une question annexe, Marie-Rose Moreau. Les spécialistes de l'enfance disent aussi que l'enfant est très fier de participer à des tâches pour le foyer, d'aider à la maison, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que l'enfant roi, c'est pas forcément une fin en soi. Il se sent faire partie aussi du foyer quand on lui demande des services dans la maison, plutôt que de le laisser s'ennuyer. Alors, paradoxal ou pas?
Alors non, c'est pas paradoxal parce qu'il a besoin de ça. Effectivement, un enfant, il a aussi besoin d'être utile. Il a aussi besoin de se sentir important dans la maisonnée et de faire des choses. Alors, il a aussi besoin de jouer, il a besoin de s'ennuyer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas saturer son emploi du temps. Il ne faut pas non plus que tout son temps soit destiné aux tâches des adultes. C'est sans doute lui donner la possibilité d'exercer des temps et des choses différentes.
À retrouver vos chroniques, Marie-Rose Moreau, sur les plateformes de téléchargement en podcast. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau. Marie-Rose Moreau, on se retrouvera pour une prochaine chronique sur l'amour que l'on porte à ses enfants. Ça, c'est un vaste sujet. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Arthur Tossou, Romain Dubrac. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Lundi, 7 milliards de voisins. Ne manquez pas l'émission. Je reçois Marie-France Bokassa, l'une des filles de Jean Bedel Bokassa, empereur déchu de Centrafrique. Elle raconte son enfance aux côtés d'un père attentif et maltraitant, aimant et autoritaire, fier de sa progéniture et destructeur. Comment se construire quand on est la fille de Jean Bedel Bokassa Ier, au sentiment de paternité exacerbé et qui gouvernait surtout son château d'Hardricourt comme il avait gouverné son peuple? Vous aurez des réponses lundi prochain et bien sûr tous vos commentaires sont les bienvenus sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne fin de semaine sur RFI. On se retrouve lundi, même heure, même endroit. 11h10, heure de Paris, 10h10, temps universel.